Bonjour les collègues, vous écoutez La Gueule Ouverte, l'émission mensuelle d'Attaque Marseille, les deuxièmes jeudis de chaque mois de 15h à 15h30 sur Radio Galère. La Gueule Ouverte, une émission qui fait monter la yoli, qui boulègue les consciences et qui dit stop aux connos.
Aujourd'hui, Pauline et Mathieu vont parler de trois sujets en une émission. Un record, l'évasion fiscale, les bouts rouges et le gage de schiste. Au fond, qu'on le prenne par le climat, par les multinationales ou l'action citoyenne, tout est lié. On va commencer par l'évasion fiscale avec l'ouverture lundi du procès Cahuzac. François Cahuzac, ex-ministre du budget de François Hollande, qui s'est fait prendre la main dans le sac par Mediapart, en pleine évasion fiscale. Le 4 décembre 2013, Mediapart révèle qu'il avait un compte en Suisse, chez UBS, depuis 20 ans. Ce qui la fout plutôt mal pour un type censé chasser les fraudeurs fiscaux. Il a ensuite transporté son argent à Singapour en 2009, juste avant de devenir président de la commission finances de l'Assemblée nationale, pour plus de discrétion. Alors qu'il nie tout en bloc, dans la presse et ailleurs, le parquet lance une enquête, Bercy également. Il démissionne et 4 mois plus tard, il avoue avoir 683 000 euros sur des comptes à l'étranger. Il se fait jeter du PS. Alors c'est quoi l'évasion si fiscale? Est-ce que c'est si mal que ça? Eh bien, c'est le fait de mettre son argent à l'étranger pour ne pas payer d'impôts. En réalité, c'est l'apanage des plus riches et des multinationales.
Pour rappel, l'évasion fiscale coûte 60 à 80 milliards d'euros par an à la France, 1000 milliards par an à l'Union européenne et représente un stock de 20 000 milliards d'euros dans les paradis fiscaux, ces pays qui accueillent l'argent de l'évasion fiscale avec des taxes légères voire nulles et le secret bancaire. La Tax Justice Network est un réseau très sérieux de recherche sur le sujet et a publié récemment le Top 10 dans lequel on retrouve notamment la Suisse, Hong Kong, les USA, Singapour, les fameuses îles Caïmans, où on retrouve notamment la BNP Paribas, ou encore le Luxembourg. Le problème, c'est que tout cet argent qui échappe aux États pourrait servir à financer des mesures sociales ou la transition énergétique, dont on parle tant sans jamais la faire.
Mais alors, c'est ça le truc des chaises qu'on a fait la dernière fois ?
Moi, je sais pas, j'ai rien à déclarer.
Bon. Bah, puisque tu veux rien dire, je vais mouiller. À l'approche de la COP21, il y a donc un mouvement citoyen porté par plusieurs associations, dont Attac et Alternativa, qui s'est lancé dans la réquisition de chaises dans les agences des banques qui pratiquent l'évasion fiscale. Réquisition de chaises ou fauchage de chaises. Petit clin d'œil aux faucheurs d'OGM. Et donc ces citoyens et citoyennes ont récolté presque 250 chaises à travers toute la France qui appartiennent donc à HSBC, BNP Paribas, Société Générale, Crédit Agricole. 196 chaises, donc le nombre de pays présents à la COP21, sont montées à Paris pour un contre-sommet et ont accueilli les postérieurs des grandes voix du mouvement altermondialiste mondial pour rappeler que l'argent pour le climat, ben, il existe et il est dans les paradis fiscaux.
Eh ben, ces chaises ont été remises à la justice lundi à l'occasion de l'ouverture du procès Cahuzac, lundi matin, pour rappeler que ce procès devait aussi être celui de tout un système, l'évasion fiscale. Notamment, ce qui est réclamé, c'est le renforcement des services fiscaux, l'obligation de transparence sur les activités réelles des filiales des banques et l'identité des détenteurs de comptes et la pénalisation de l'évasion fiscale organisée par les banques. On écoute tout de suite Thomas Coutreau, porte-parole d'Attac, à ce sujet.
Un autre procès s'ouvre lundi 8 février, c'est-à-dire dans 8 jours exactement, et c'est le procès de Jérôme Cahuzac au palais de justice de Paris. Et nous avons décidé, avec nos amis de la campagne des faucheurs de chaises, donc nos amis les amis de la Terre, Alternativa et Action Non-Violente, nous avons décidé d'être présents à l'ouverture du procès Cahuzac lundi matin et de ramener 196 chaises qui ont servi qui ont servi donc lors du sommet citoyen à Montreuil pour exprimer la position de la société civile internationale sur le financement de la transition écologique et sociale. Vous savez que nous avons publié à cette occasion un manifeste traduit dans plusieurs langues. Nous allons donc rapporter ces chaises au palais de justice pour dire à la justice et au pouvoir public, c'est bien de faire le procès de Cahuzac, mais il faudrait surtout faire le procès de l'évasion fiscale et des banques qui l'organisent.
Mais c'était pas un petit peu dangereux de rentrer dans les agences comme ça, sans se masquer
Ouais, mais nous, on assume. On assume et on le paye. Depuis le début de ces réquisitions citoyennes, une quinzaine de personnes sont passées par le commissariat pour y être interrogées, dont le copain Antoine et moi. Cueillis par la police au domicile, on y a appris que nous étions poursuivis pour vol en réunion, un total de 15 chaises, apologie de crimes et délits pour avoir incité à participer aux actions sur les réseaux sociaux, sans compter le refus de prélèvement ADN. Après ces 7 heures de garde à vue, on nous a dit qu'on risquait donc comme peine maximale, 5 ans de prison et 75 000 euros d'amende. Mais comme on attend toujours la lettre de convocation au correctionnel du procureur, bon...
Vous étiez deux pour porter autant de chaises?
Mais non, on était bien plus nombreux. Sans compter celles et ceux qui nous soutiennent, en appelant à ces réquisitions, en recelant les chaises. Même José Bové, le faucheur OGM, soutient les faucheurs de chaises. Guédiguian, le mythique réalisateur marseillais. Sans compter Suzanne Georges, Edgar Morin, Patrick Vivray... Que du beau monde. C'est un peu à se demander pourquoi Hollande, qui promettait une grande réforme de l'impôt et qui déclarait que la finance était son pire ennemi, ne fait absolument rien.
Ouais, donc en gros, impunité pour les banques qui facilitent l'évasion fiscale et garde à vue pour ceux qui mouffent, quoi. Bon. Et bah écoute, maintenant ça va être à moi de te raconter une petite histoire, mais avant ça, on va s'écouter un petit morceau de musique d'un groupe. Donc c'est Merkan Dede qu'on va écouter et un groupe turc. Alors, après cette petite évasion en Turquie, je vous raconte une petite histoire. Il était une fois, un samedi 30 janvier 2016, des gens rouges de colère se rassemblant à la préfecture pour protester contre la prolongation du permis de polluer d'Alteo. L'industriel pourra rejeter pendant 6 ans encore ses déchets pleins de métaux lourds en plein dans le parc des Calanques.
Est-ce que tu pourrais nous rafraîchir la mémoire sur ce dossier ? C'est qui, Alteo ?
Alors, Alteo, c'est le dernier nom de l'usine d'alumine de Garnane, qui a appartenu à Péchiné. Donc, c'est une usine qui date de 1893, donc qui est là depuis bien longtemps. Puis ensuite, elle a appartenu à Rio Tinto Alcan. Et maintenant, elle appartient à Alteo, qui en fait, derrière Alteo, il y a HIG Europe, qui est un fonds de pension américain. Donc, c'est une usine en fait, qui fabrique de l'alumine à partir de la bauxite.
À partir de la bauxite. Mais alors, la bauxite, c'est quoi ? Et comment on fabrique de la bauxite ?
Alors, la bauxite, c'est une roche de couleur rouge qui contient beaucoup d'alumine. Et l'alumine, c'est ce qui sert notamment à la fabrication d'écrans plats à cristaux liquides, de tablettes tactiles. Et cette bauxite, alors, on en trouvait au Beau de Provence, c'est de là que vient le nom d'ailleurs. Et en fait, Alteo n'extrait pas la bauxite sur place, elle importe la bauxite de Guinée.
Quoi ?
Voilà, à un prix d'ailleurs très cher, mais ça, on en reparlera plus tard. Et voilà, donc le procédé s'appelle le procédé Bayer et ça, c'est basé sur la dissolution de l'alumine qui provient de la bauxite par de la soude. Donc à chaud, la soude, elle va dissoudre l'alumine qui est contenue dans la bauxite. Toutes les impuretés qui viennent de ce processus, dont de l'oxyde de fer, de la silice, divers oxydes et plein d'autres métaux lourds, restent insolubles. Et c'est ça qui forme ces fameuses boues rouges. En plus de ça, donc en plus d'être très polluant, c'est un processus qui est très consommateur en eau. Donc ces résidus qui avant étaient stockés sur des terrains aux alentours de l'usine ont commencé en partie à être acheminés jusqu'à la mer en 1966. Donc les gars, ils se sont dit on entasse. Ah mince, il n'y a plus de place, qu'est-ce qu'on fait ? On va construire un gros tuyau, une grosse canalisation et on va balancer tout ça dans la mer. Donc déjà, ils ont construit la conduite en 1966. Donc ça a déjà donné lieu à une levée de boucliers de la part des pêcheurs et des gens environnants. Et donc concernant les rejets marins, on a donc 47 kilomètres de canalisation qui partent de l'usine et qui vont jusqu'à Cassis, plus exactement à Port-Miou. Donc là, la canalisation, elle plonge sous l'eau jusqu'au canyon sous-marin de Cassidène, donc à 7,5 km de la côte. Et là, on a ces boues qui se déversent dans cette fosse. Donc depuis 50 ans, il y a 30 millions de tonnes de déchets industriels toxiques qui sont rejetés et l'épaisseur des boues, elle est estimée à 37 mètres de hauteur au point de rejet. Donc ça fait l'équivalent de 6 étages d'un immeuble. Donc tout va bien, quoi. Et ça s'étend de fosse à hier. Donc ça fait, faut imaginer, 270 mètres cubes par heure, quoi.
C'est réjouissant.
Ouais. Et en plus de ça, le site de stockage, il génère des quantités de poussière rouge qui sont toxiques et qui se déplacent facilement avec le vent. Puis comme on est dans une région où il n'y a jamais de vent, c'est fantastique.
Mais alors du coup, il y a quoi en fait dans ces boues rouges ?
Alors au niveau des métaux lourds, dans 30 millions de tonnes de boue, on trouve 2 200 000 tonnes de résidus d'aluminium, 9 300 000 tonnes de fer. Moi, je vais passer les chiffres, mais du titane, du chrome, du zinc, du plomb, du cuivre, du nickel, de l'arsenic. Et ce sont des taux en fait, qui vont largement au-delà des seuils tolérés, donc qui entraînent des maladies graves. Il y a aussi, ça génère énormément de radioactivité.
C'est super réjouissant là encore. Mais en fait, du coup, comment on peut laisser faire ça ? Il n'y a pas une législation en place. Et puis on nous avait parlé de la COP21 quand même.
La fameuse COP21. Alors oui, il y a des textes qui réglementent la pollution en Méditerranée, notamment la Convention de Barcelone, qui a été ratifiée par la France en 1976 et amendée en 1995, et qui vise justement à réduire la pollution et à protéger le milieu marin méditerranéen, notamment en réglementant les effluents. En plus, le rejet se fait dans le parc national des Calanques, qui a sa propre réglementation. Et donc, je cite le site web. « La réglementation du parc national des Calanques portant sur les usages et les activités s'applique uniquement dans le cœur du parc national et a pour objectif de préserver la biodiversité marine, mais aussi d'assurer la durabilité des différentes activités comme la pêche de loisir ou la plongée sous-marine. Alors, la pêche de loisir et la plongée sous-marine, quand on remonte des trucs qui sont tout rouges et radioactifs...
On ne doit pas voir grand-chose.
C'est ça. Et voilà, après, on a également des organismes en charge du respect des normes environnementales, tels que le CODERS, donc le Conseil départemental des risques sanitaires et technologiques. Et bon, il y a aussi tout un tas de collectifs de citoyens, de pêcheurs, de scientifiques qui se mobilisent et qui bossent sur le dossier depuis des dizaines d'années. Voilà, pour faire pression et puis pour dénoncer tous les impacts de ce projet. Et puis face à eux, on a un industriel, Alteo, enfin Péchinet autrefois, qui nous enchaîne les contre-expertises et les fausses promesses pour endormir les politiques. Parce qu'il faut savoir qu'en 1995, Péchinet, à l'époque, s'était engagé à arrêter les bouts rouges en mer. Et donc promettait vraiment l'arrêt des bouts. Et c'est ça qui avait donné lieu à un délai de 10 ans qui avait été octroyé par la ministre de l'Environnement, Corinne Lepage, à l'époque. Et donc du coup, sous couvert de cette belle promesse, elle avait dit pendant 10 ans, enfin vous avez 10 ans pour mettre en place ce qu'il faut pour arrêter de polluer. Et en fait, eux, ce qu'ils ont déclaré, c'est on va arrêter de rejeter du solide. Et là, fin de l'année dernière, ils ont redéposé un permis pour pouvoir déposer du liquide. Enfin, pour pouvoir continuer à polluer, mais de manière liquide, quoi. Et justement, c'est pour ça qu'il y a eu ce rassemblement. C'est parce que la prolongation a été accordée. Donc, on va écouter une interview, justement, de José Bové pendant le rassemblement.
José Bové, donc, vous participez à ce rassemblement. Vous pouvez nous expliquer pourquoi ?
Écoutez, ça fait plusieurs années que la mobilisation s'est renforcée pour essayer de faire arrêter ce scandale des émissions d'Alteo en Méditerranée. Alors, il y a quelques années... on pensait avoir gagné, il y a encore quelques mois, jusqu'à ce que le préfet décide de redonner une nouvelle autorisation pour des effluents dans le tuyau. Et ça s'est fait de manière invraisemblable, au mépris de toutes les règles de droit environnemental, des normes environnementales, puisqu'aujourd'hui, il y a une directive européenne, qui s'est la directive de Barcelone, qui limite et qui donne des seuils pour les émissions de métaux lourds notamment, ou d'autres produits. Or, on est au-delà de ces normes. C'est ce qu'ont dit les scientifiques. Donc on a déjà là une première infraction. Puis on a une deuxième infraction, c'est que alors que le ministère, au vu des normes de l'environnement, avait dit on arrête ces émissions, le Premier ministre est passé outre et a ordonné au préfet de prendre un arrêté pour continuer les rejets en mer. Et ça, c'est la situation dans laquelle on est aujourd'hui. Donc cette mobilisation, elle est là pour dire, un, c'est un scandale qu'on continue, deux, les normes sont absolument pas respectées, et troisièmement, la décision du Premier ministre est illégale. Illégale parce qu'en fait, il s'est substitué au ministre de l'Environnement. Donc les riverains, les pêcheurs, les associations ont fait un recours auprès de la ministre de l'Environnement en disant « à vous de reprendre le dossier, ce qui a été fait là est illégal, il n'y a que vous qui ayez la compétence ». Et donc cette manifestation, elle a aussi pour but de faire pression pour amener à une décision de la ministre de l'Environnement. Et donc, si ça ne suffit pas, eh bien on fera un recours sur le fond, et en parallèle, on s'apprête aussi à saisir la Commission européenne via le Parlement européen pour non-respect de la réglementation européenne sur la directive de Barcelone qui limite les effluents.
Ok, d'accord.
Voilà. Donc on va gagner.
Mais du coup, en plus du scandale écologique, ce qu'il nous explique, c'est qu'il y a aussi un scandale au niveau de la procédure d'État.
Oui, voilà, parce que constitutionnellement, le préfet, il est censé obéir au ministre de tutelle concerné par le sujet, donc en l'occurrence, la ministre de l'Environnement. Là, on a la ministre, donc Ségolène Royal, qui s'était déjà prononcée plusieurs fois contre la prolongation du permis de polluer, on va appeler ça comme ça. Hein. Et là, on a le préfet qui dit oui. Donc c'est que l'ordre en fait, il provient du Premier ministre. Et ça, c'est pas correct, quoi. Ils peuvent pas faire ça. Donc là, on a ce problème-là. Et en plus, ils se sont rendus compte dans l'arrêté préfectoral, je ne sais plus très bien, mais je crois que c'est le 30, ils se sont rendus compte qu'en fait, dans l'arrêté, les 6 ans mentionnés, ça s'applique à la durée d'application de la dérogation et ça ne s'applique pas à la durée du rejet. Donc en gros, l'arrêté, il ne mentionne pas de date d'échéance d'arrêt des rejets. Donc en fait, l'arrêté, il ne tient pas la route. Et donc voilà, l'idée, c'est que justement, le pourquoi ils font recours, entre autres, c'est pour demander qu'il y ait un autre arrêté, bon, que Ségolène Royal refasse un nouvel arrêté pour donner 2 ans à Althéo, déjà pas 6 ans. Et puis il faut mentionner la date butoir à laquelle Althéo est censé arrêter complètement les rejets. Voilà, il y a aussi une enquête publique qui a été réalisée, les résultats ont été... L'avis défavorable, ça, ils n'en ont pas tenu compte. Il y a plein d'expertises indépendantes et des rapports qui montrent que c'est dangereux et que la pollution, c'est absolument pas contestable. Et voilà.
Mais en quoi, du coup, elle consiste, leur fameuse nouvelle technique de filtre chez Althéo ? C'est vraiment moins polluant ?
En fait, ils ont... Donc, eux, ils jouent sur le fait que les effluents vont être liquides, donc pas solides, que ça va être du liquide transparent qui va ressortir de cette conduite, et que c'est beaucoup, beaucoup moins polluant. Et en fait, ils ont demandé, donc la dérogation, elle porte sur six paramètres, six métaux lourds sur lesquels les seuils sont beaucoup trop élevés par rapport à la fameuse convention de Barcelone. Après, sur les 70 autres métaux lourds, ils sont dans les clous. Et donc ce système, en fait, c'est un système de filtre presse qui sépare le solide du liquide et qui, soi-disant, permet la valorisation donc des déchets solides en transformant donc les fameuses boues en bauxaline, une matière première étanche qui est censée être utilisée comme remblai. Sauf que ça fonctionne pas parce que personne n'en veut de cette matière première, enfin de ce produit de remblai, parce que c'est beaucoup trop chargé en métaux lourds. Au niveau du plaçage de ces boues en déchetterie, c'est trop volumineux pour être mis avec les produits non dangereux, puis c'est surtout trop pollué. Et le truc, c'est que c'est trop radioactif pour être mis avec les déchets dangereux.
Ça donc, donne pas envie d'être à côté.
Non, vraiment pas. Puis du coup, ils font juste déplacer le problème, quoi. Et faut quand même préciser que ces fameux filtres presse, ils ont été financés à hauteur de 15 millions d'euros en fonds publics. Ça, c'est l'autre truc magique.
C'est nous qu'on a payé.
Voilà, c'est ça. Donc, je veux dire, le fait que ce soit toujours polluant et que ça explose les seuils tolérés par la Convention de Barcelone, c'est officiel. Là. Il y a le rapport du BRGM, donc le Bureau de Recherche Géologique et Minière, qui s'est écrit noir sur blanc dans le rapport, qu'il y a six métaux lourds dont les seuils sont largement dépassés. Donc, on va écouter Guillaume qui nous en parle pendant le rassemblement justement du 30.
Juste là, j'ai le rapport du BRGM sous les yeux. Juste pour l'aluminium, par exemple. Le rejet actuel, ils auraient le droit à 5 mg par litre d'aluminium. Ils sont à 1226. C'est pas moi qui le dis, ce sont les services de l'État. Il y a encore une cinquantaine d'autres métaux lourds qui se retrouvent dans ces effluents. On aura tout à l'heure le professeur Augier qui est une sommité en la matière de tous les effets négatifs que peuvent avoir ces métaux lourds, comme Alzheimer, etc., qui sont de plus en plus précoces et de plus en plus fréquentes, notamment par chez nous. D'ici là, un petit interlude musical, parce que ça a assez causé comme ça.
Voilà, donc avant de faire le nôtre d'interlude musical, on va juste ajouter que le fait d'être passé aux effluents, enfin le fait d'être passé d'un état solide à un état liquide, on craint que les effets nocifs soient encore pires parce que l'eau polluée en fait est plus légère que l'eau de mer, donc elle va remonter vers la surface et c'est le phénomène naturel d'upwelling qui va donc accentuer cette remontée et lorsque le Mistral va souffler. On a toute la pollution qui va revenir sur le littoral, sur les plages. Donc, on se retrouve avec une espèce de pollution invisible sans frontières. Alors, il ne faut pas dire que les boues, c'est moins pire parce que ça reste au fond, parce que de toute façon, ça tue la faune et la flore sous-marine. Mais là, on a, voilà, c'est un impact désastreux sur la santé publique, sur les plages. On double les impacts de la pollution, quoi, en fait. Et faut savoir que dans ce fameux rapport du BRGM, il y avait quand même des propositions de projets alternatifs. Donc, il y avait 6 alternatives, dont une station d'épuration qui permettait d'arrêter complètement les déchets. Et la réponse d'Althéo, ça a été que c'était trop cher. Et puis bon, l'usine, les installations de l'usine, elles sont ultra obsolètes. Rien que la canalisation, elle a été construite en 1966, il n'y a jamais eu de rénovation. Donc il faut imaginer que cette canalisation, elle expose toute la zone à des catastrophes écologiques terrestres si jamais il y a des fuites. Et il y a aussi des problèmes au sein même du site, la pollution des eaux souterraines et de l'usine en elle-même, qui a fait l'objet de 7 arrêtés de mise en demeure pour des travaux non réalisés suite à des visites d'inspection. Et ensuite, on a Alteo qui ose faire du chantage à l'emploi, alors que, enfin voilà, on voit bien que les conséquences sur le secteur de la pêche et du tourisme sont largement plus importantes. Et puis prendre en otage ses salariés, c'est juste odieux, quoi. Et enfin, un autre petit scandale qui est en cours d'eux, c'est que l'usine, en fait, elle affiche un déficit de plusieurs dizaines de millions d'euros, ce qui techniquement est incompatible avec la logique de rentabilité d'un fonds de pension américain, donc le HIG qu'il y a derrière Alteo. Et en fait, on s'est rendu compte qu'ils achètent la bauxite en Guinée à un prix qui est largement supérieur au prix du marché. Donc en fait, on soupçonne l'entreprise un peu de surfacturer ses achats, peut-être pour placer des fonds sur un autre compte appartenant à HIG. Enfin, il y a un truc vraiment pas clair. Donc le sujet, il est vraiment, vraiment, vraiment bouillant. Voilà. Donc on se fait une petite pause musicale.
On va y réfléchir, ouais.
Puis tu nous racontes une autre histoire, toi, après.
Allez, à mon tour. C'est génial, c'était quoi ?
C'était le trio Joubran, c'est des oudistes qui viennent de Palestine. Et d'ailleurs, j'ai fait un petit oubli après l'histoire sur les bouts rouges. C'est un sujet qui est traité de manière hyper, hyper complète par pas mal de monde, notamment le site du collectif Littoral. Voilà, vous tapez collectif Littoral Bouts Rouges sur Internet, vous allez trouver tout un tas de documents qui approfondissent le sujet, parce qu'évidemment, là, en 15 minutes, c'est pas suffisant. Et il y a surtout le podcast d'une émission de radio sur Galère du 21 octobre 2015 qui est super bien faite. Et il y en a une autre qui a été faite récemment aussi. Et pareil, une émission entière consacrée au sujet. Donc voilà.
Pour avoir toutes les infos. Bon, bah maintenant, à mon tour. Et on va causer gaz de schiste.
Alors, évidemment, bon, tout le monde connaît le gaz de schiste, c'est pas bien et tout. Mais tu peux nous réexpliquer.
En fait, professeur Mathieu, c'est des poches de gaz très profondes, tellement profondes qu'elles sont sous la roche. Les industriels aiment bien dire qu'elles sont emprisonnées dans la roche.
Libérez le gaz de schiste.
Ils font donc partie des hydrocarbures avec le pétrole, d'autres gaz, mais ils sont considérés comme non conventionnels. Le fait qu'ils soient sous la roche oblige à les en libérer, donc comme disent les industriels du secteur, en utilisant la fracturation hydraulique. Grosso modo, on balance de l'eau, du sable et un paquet de produits chimiques à très haute pression pour faire craquer la roche et pouvoir forer jusque dans ses réserves de gaz. Le problème, c'est que les produits utilisés sont à l'origine de maladies congénitales, de stérilité, de retard de développement du fœtus, sans compter le méthane qui se dégage des forages et qui est un gaz à effet de serre très puissant, ou les tremblements de terre dus aux forages qu'on a déjà pu voir en Oklahoma, aux États-Unis.
Ah oui, mais c'est pas interdit cette histoire. Il me semble que ça fait longtemps qu'on a dit qu'on n'était pas d'accord.
Eh bien moi, je vais te raconter l'histoire en prenant l'exemple de Montélimar. En 2010, l'État délivre un permis d'exploration pour la zone de Montélimar à Total. C'est quand même une zone de Montélimar qui couvre 4300 km² du sud de Valence à Montpellier et qui s'étale sur 5 départements. Donc c'est pas n'importe quoi. Sauf que le 13 juillet 2011, le gouvernement Sarkozy, pond une loi interdisant la fracturation hydraulique. Et le permis de Total est abrogé car la demande de permis déposée par Total est floue sur l'emploi de la fracturation hydraulique pour ses explorations. Total a donc attaqué la décision au tribunal administratif de Cergy-Pontoise qui vient d'annuler l'abrogation le 28 janvier et condamne l'État à 3000 euros d'amende. On va donc écouter Pierre Chante, riverain d'un permis d'exploration et membre d'un collectif contre le gaz de schiste, sur le pourquoi du comment.
Voilà, alors ce qui s'est passé, c'est que c'est un peu ambigu, à savoir qu'au départ, dans ses premières demandes Total dans les années 2011, évoquait, comme tous les autres, la fracturation hydraulique. Mais par la suite, ce qui s'est passé, lorsqu'il a refait une demande après que la loi et interdit la fracturation hydraulique, il a fait disparaître, si on peut dire, de façon un peu artificielle, il a fait disparaître cette notion de fracturation hydraulique, disant qu'il utiliserait pour ce permis de Montélimar des méthodes plus conventionnelles. Ce qui fait que le tribunal de Cergy-Pontoise, lui, qui juge uniquement d'un point de vue juridique, pas d'un point de vue politique, a dit, puisqu'ils ne veulent pas utiliser la fracturation hydraulique, mais donc il n'y a pas de problème, ce permis est valable.
Mais en fait, quand on dit que le gaz de schiste est interdit en France, c'est pas ça. C'est que en fait, on n'a pas le droit d'extraire de gaz du schiste à partir de la fracturation hydraulique. Et du coup, c'est fini.
Et non, parce que par exemple, Ségolène Royal, dont tu parlais tout à l'heure, annonce faire appel de cette décision. Elle compte rappeler que sa loi de transition énergétique pour la croissance verte, quand même, vise une baisse de 30% de la consommation d'hydrocarbures d'ici 2030 en France et qu'elle prévoit une révision globale de la politique française d'exploration et exploitation des hydrocarbures par rapport à 2012. Et les riverains et collectifs anti-gaz de schiste appellent à une grande mobilisation à Barjac, dans le Gard, dimanche 28 février. Un rassemblement aura lieu à 11h, une marche débute à 14h et on attend encore du beau monde. José Bové, décidément de tous les combats, y sera. On va écouter donc les revendications de ce rassemblement, toujours par Pierre Chante, du collectif anti-gaz de schiste du bassin d'Alès.
Alors, disons que notre revendication, celle qu'on va exprimer à Barjac le 28 février, est beaucoup plus large que ça, puisqu'on part bien sûr de ce problème spécifique du permis de Montélimar, mais on évoque aussi tous les autres permis en cours, en particulier pour nous, ce qui nous concerne, nous, par exemple, le nord du Gard, sud Ardèche. Il y a trois permis qui nous concernent directement, le permis de la plaine d'Alès, du bassin d'Alès et de Navacelles. Donc ces permis sont en cours de renouvellement, donc on demande à ce qu'ils ne soient pas renouvelés. Et on s'étend aussi à l'ensemble des permis en cours d'instruction. Il y aurait actuellement donc une trentaine de permis en cours et 133 demandes de permis en cours d'instruction. Et donc, nous souhaitons, nous, que toutes ces demandes, tous ces renouvellements soient abrogés, pensant que, justement, par rapport à la clôture de la COP21, il était important d'abandonner, si vous voulez, cette filière d'hydrocarbures d'une manière générale et se tourner, bien évidemment, vers d'autres formes d'utilisation de l'énergie et de fabrication de l'énergie.
Ah ouais, non, mais alors en fait, ils demandent carrément l'arrêt de tout, partout. Ouais, je comprends mieux leur slogan « ni ici, ni ailleurs, ni aujourd'hui, ni demain ». Mais du coup, je croyais qu'il y avait des alternatives à la fracturation hydraulique.
Sauf que c'est du pipeau. Ouais. Les industriels des hydrocarbures avaient reconnu devant le Sénat que seule la fracturation hydraulique fonctionnait. Même feu Christophe de Margerie, ex-PDG de Total, interviewé par Le Monde en 2013, déclarait, paraphrasant Margaret Thatcher, « il n'y a pas d'alternative ». Quelques techniques ont été testées, comme l'utilisation d'arc électrique pour fendre la roche. Alors là, Christophe de Margerie et les industriels américains disent « masser la roche, c'est tellement plus sexy ». Mais elles ne sont pas concluantes. Et au point que les entreprises qui vendent ces solutions alternatives ont fait faillite ou ont même été attaquées pour escroquerie aux États-Unis.
Mais si la loi interdit la fracturation hydraulique d'un côté et autorise à déposer des permis d'exploration et d'exploitation du gaz de schiste à condition d'utiliser des méthodes alternatives qui n'existent pas, on marche carrément sur la tête.
C'est pour ça que Sabine Buis, députée PS d'Ardèche, soutenue par Pierre Chante et ses amis, compte proposer une loi dans le cadre du dialogue environnemental pour modifier le code minier en interdisant clairement l'exploration et l'exploitation de gaz non conventionnel.
Ouais, mais bon, il faut se dépêcher du coup avant l'arrivée du TAFTA, le grand accord transatlantique.
Oui. Parce que ce dont on ne parle pas, c'est qu'aux côtés de Total figure un autre exemple dans la région. Schubbach, dont le permis a aussi été abrogé en 2011 suite à la loi sur la fracturation hydraulique. Et eux, ils n'ont pas réclamé le pouvoir continuer à forer. Ils ont juste demandé des indemnités. Des indemnités de 117 millions d'euros à l'État quand même. Le tribunal public a rejeté cette plainte, mais si elle avait été portée devant un tribunal d'arbitrage international rempli d'avocats d'affaires à la solde des multinationales, dans le cadre de TAFTA par exemple, l'État aurait peut-être cédé ou aurait été condamné. D'ailleurs, la pétition en ligne mentionne le refus de TAFTA par les militants anti-gaz de schiste.
Et du coup, on parlait tout à l'heure d'une mobilisation contre le gaz de schiste à Barjac. Du coup, c'est du sérieux, c'est important cette mobilisation.
Ben là encore, on va écouter Pierre Chante en parler.
Ce qu'on pense, nous, donc, c'est que le dimanche 28 février à Barjac, la manifestation elle sera déterminante, très importante. Déjà, on sent que beaucoup de gens se mobilisent, hein, puisque, comme je vous l'ai dit, hein, ça va de Valence à Montpellier, donc les gens concernés ils sont très, très nombreux. Les collectifs, les associations, eux aussi sont très très nombreux, donc on se réunit là depuis quelque temps, pratiquement toutes les semaines, pour mettre en place cette manifestation. Et on espère, la dernière fois qu'on avait fait une manifestation à Barjac, c'était en octobre 2011, il y avait eu environ 5000 personnes. Donc là on espère, avec cette mobilisation beaucoup plus étendue, on espère atteindre les 10 000 personnes, voire plus. Donc cette manifestation, je pense qu'elle sera très importante, un peu comme elle avait été celle de Villeneuve-de-Berre, qui avait fait que, justement, elle avait fait bouger les choses. Et je pense que cette manifestation de Barjac risque de faire bouger les choses. De nombreuses personnalités sont attendues. On sait que José Bové va venir. Le maire de Barjac a sollicité Nicolas Hulot. Donc on verra un petit peu tout ce qui va se faire, mais on est à peu près certain, donc comme on en a l'impression actuellement, déjà on a mis une pétition en ligne, il y a plus de 4000 personnes déjà qui l'ont signée, donc on pense que la mobilisation est grande. Les gens, beaucoup de gens dans cette région ne misent pas du tout sur le gaz de schiste, sur les hydrocarbures, ils misent, disons, sur l'agriculture, le tourisme ou d'autres activités, et ne souhaitent pas du tout voir cette belle région, parce qu'il s'agit vraiment d'une belle région, hein, quand on dit le nom des départements, l'Ardèche, le Gard, le Vaucluse, la Drôme, l'Hérault, bon, ce sont des départements qui sont de beaux départements, et on souhaite justement pas les défigurer. Et je pense que la population de ces régions est très sensible à tout cela et je pense qu'il y aura vraiment beaucoup de monde et beaucoup d'élus. D'élus sont à nos côtés puisque le conseil, mettons, régional Languedoc ou Sillon Midi-Pyrénées a déjà pris une motion contre l'exploitation et demande l'abrogation du permis de Montélimar. Mais je pense qu'il y en a aussi d'autres dans la Drôme, dans le Vaucluse, dans l'Hérault.
Alors vous,
oui,
vous, les yeux rivés sur le smartphone ou l'ordinateur en écoutant La Gueule Ouverte, avant de venir le 28 février au rassemblement à Barjac, signez la pétition sur pétition.nogazaran.fr. Et maintenant, l'agenda d'Attaque Marseille pour les prochaines semaines. Un agenda chargé. Le 23 février, au Bal Perdu, 17 cours Julien à 18h, un débat sur le climat, l'analyse de l'accord de Paris et de la COP21 qui a bien servi, comme on l'a vu aujourd'hui. Un point sur les forces en présence et surtout les perspectives d'action. Le 28 février, vous serez avec tout le monde, la terre entière à Barjac dans le Gard contre les gaz de schiste. Le 2 mars, vous serez à la cafétéria du campus de Lumigny à 20h pour une projection de débat du film La Vague dans le cadre du cycle La Fabrique de l'Opinion. Le 9 mars, au local d'Attaque Marseille, 29 boulevard Longchamp, vous serez à une conférence débat animée par une délégation algérienne sur la lutte contre le gaz de schiste en Algérie. Le 10 mars, vous retrouverez La Gueule Ouverte sur Radio Galère, toujours à 15h. Le 13, c'est le carnaval de la plaine sur le thème « Les requins du foncier ».
Youhou !
Le 15 mars à 18h30, rendez-vous au local Attaque Marseille pour une réunion nouveaux adhérents pour découvrir les activités du comité local. Et le 27 mars à 9h30, parce qu'on voit loin, très loin, sur inscription, Hervé vous embarquera pour une alter randonnée « Lutte des classes » à Saint-Pierre. Merci Pauline.
On s'ennuie pas à Attaque. Hein.
Chouette émission.
Merci
hein.
Mathieu.
Ciao.
C'était La Gueule Ouverte, le rendez-vous mensuel d'Attaque Marseille. On se retrouve le mois prochain, le deuxième jeudi du mois, de 15h à 15h30 sur Radio Galère. Allez, zou, bouleg, casse-toi, bye, bye.